Chapitre 7. On était de nouveau à l'époque de la fenaison, par un ciel bleu et très chaud, que des brises rafraîchissaient. Et l'on avait fixé le mariage au jour de la Saint-Jean, qui tombait cette année-là un samedi. Les Fouan avaient bien recommandé à Buteau de commencer les invitations par la grande, l'aînée de la famille. Elle exigeait des égards en reine riche et redoutée. Aussi, Buteau, un soir, s'en alla-t-il avec Lise, tous les deux en dimanche, la prier d'assister à la noce, à la cérémonie, puis au repas, qui devait avoir lieu chez la mariée. La grande tricotait, seule dans sa cuisine, et sans ralentir le jeu des aiguilles, elle les regarda fixement. Elle les laissa s'expliquer, redire à trois reprises les mêmes phrases. Enfin, de sa voix aiguë, « À la noce ? Ah non, bien sûr. Qu'est-ce que j'irai faire à la noce ? C'est bon pour ceux qui s'amusent. » Ils avaient vu sa face de parchemin se colorer à l'idée de cette bombance qui ne lui coûterait rien. Ils étaient certains qu'elle accepterait. Mais l'usage voulait qu'on la priât beaucoup. « Ma tante, là, vrai, ça ne peut pas se passer sans vous. »« Non, non, ce n'est point fait pour moi. Est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai de quoi me mettre ? » C'est toujours de la dépense. On vit bien sans aller à la noce. » Ils durent répéter 10 fois l'invitation. Et elle finit par dire d'un air maussade, « C'est bon, puisque c'est forcé, j'irai. Mais il faut que ce soit à vous pour que je me dérange. » Alors, en voyant qu'il ne partait pas, un combat se livra en elle, car d'habitude, dans cette circonstance, on offrait un verre de vin. Elle se décida. Descendit à la cave, bien qu'il y eût là une bouteille entamée. C'était qu'elle avait, pour ces occasions, un reste de vin tourné qu'elle ne pouvait boire, tant il était aigre, et qu'elle appelait du chasse-cousin. Elle emplit 2 verres, elle regarda son neveu et sa nièce d'un œil si rond qu'ils durent les vider sans une grimace pour ne pas la blesser. Ils la quittèrent, la gorge en feu. Ce même soir, Buteau et Lise se rendirent à Rose-Blanche chez les Charles, mais là, ils tombèrent au milieu d'une aventure tragique. Monsieur Charles était dans son jardin très agité. Sans doute une violente émotion venait de le saisir au moment où il nettoyait un rosier grimpant, car il tenait son sécateur à la main. Et l'échelle était encore contre le mur. Il se contraignit, pourtant il les fit entrer au salon, où Élodie brodait de son air modeste. « Ah, vous vous mariez dans 8 jours ? C'est très bien, mes enfants. Mais nous ne pourrons être des vôtres. Madame Charles est à Chartres, et elle y restera 15. » Il souleva ses paupières lourdes pour jeter un regard vers la jeune fille. « Oui, dans les moments de presse, aux grandes foires, Madame Charles va donner là-bas un coup de main à sa fille. » Vous savez, le commerce est le commerce. Il y a des jours où l'on s'écrase dans la boutique. Estelle a beau avoir pris le courant, sa mère lui est bien utile, d'autant plus que, décidément, notre gendre Vaugogne n'en fait guère. Et puis, Madame Charles est heureuse de revoir la maison. Que voulez-vous ? Nous y avons laissé 30 ans de notre vie, ça compte. » Il s'attendrissait. Ses yeux se mouillaient, vagues, fixés là-bas, dans le passé. Et c'était vrai, sa femme avait souvent la nostalgie de la petite maison de la rue aux Juifs, du fond de sa retraite bourgeoise, si douillette, si cossue, pleine de fleurs, d'oiseaux et de soleil. En fermant les paupières, elle retrouvait le vieux Chartres, dévalant sur le coteau, de la place de la cathédrale au bord de l'Eure. Elle arrivait, elle enfilait la rue de la Pie, la rue Porte-Cendreuse, puis rue des Écuyers, pour couper au plus court, elle descendait le tertre du pied plat, et de la dernière marche, le 19, faisant le coin de la rue aux Juifs et de la rue de la Planche aux Carpes, lui apparaissait, avec sa façade blanche, ses persiennes vertes, toujours closes. Les 2 rues étaient misérables. Elle en avait vu pendant 30 ans les taudis et la population sordide, le ruisseau central charriant des eaux noires. Mais que de semaines, que de mois vécus chez elle, à l'ombre, sans même passer le seuil. Elle restait fière des divans et des glaces du salon, de la literie et de l'acajou des chambres, de tout ce luxe, de cette sévérité dans le confortable, leur création, leur œuvre à laquelle ils devaient la fortune. Une défaillance mélancolique la prenait au souvenir de certains coins intimes, au parfum persistant des eaux de toilette, à cette odeur spéciale de la maison entière qu'elle avait gardée dans la peau comme un regret. Aussi attendait-elle les époques de gros travail, et elle partait, rajeunie, joyeuse, après avoir reçu de sa petite fille deux gros baisers qu'elle promettait de transmettre à la mère, dès le soir, dans la confiserie. « Ah, c'est contrariant !» répétait Buteau, vraiment vexé à l'idée qu'il n'aurait pas les Charles. « Mais si la cousine écrivait à notre tante de revenir ?» Élodie, qui allait sur ses 15 ans, leva sa face de vierge, bouffie et chlorotique, aux cheveux rares, de sang si pauvre que le grand air de la campagne semblait la némir encore. « Oh non !» murmura-t-elle. « Grand-mère m'a bien dit qu'elle en avait pour plus de 2 semaines avec les bonbons, même qu'elle doit m'en rapporter un sac, si je suis sage. » C'était un mensonge pieux. On lui apportait à chaque voyage des dragées qu'elle croyait fabriquées chez ses parents. « Eh bien !» proposa enfin Lise. « Venez sans elle, mon oncle. Venez avec la petite. » Mais Monsieur Charles n'écoutait plus. Retombé dans son agitation. Il se rapprochait de la fenêtre, semblait guetter quelqu'un, renfonçait dans sa gorge une colère près de jaillir. Et, ne pouvant se contenir davantage, il renvoya la jeune fille d'un mot. « Va jouer un instant, ma chérie !» Puis, quand elle s'en fut allée, habituée à sortir ainsi dès que les grandes personnes causaient, il se planta au milieu de la pièce, croisa les bras, dans une indignation qui faisait trembler sa face correcte. Grasse et jaune de magistrat retiré. Croyez-vous ça? Avez-vous jamais vu une abomination pareille? J'étais à nettoyer mon rosier, je monte sur le dernier échelon, je me penche de l'autre côté, machinalement, et qu'est-ce que j'aperçois? Honorine, oui, ma bonne Honorine, avec un homme, l'un sur l'autre, les jambes en l'air, en train de faire leur saleté. Ah, les cochons, au pied de mon mur! Il suffoquait. Il se mit à marcher avec des gestes nobles de malédiction. « Je l'attends pour la flanquer à la porte, la gueuse, la misérable. Nous n'en pouvons pas garder une. On nous les engrosse toutes. Au bout de 6 mois, c'est réglé. Elles deviennent impossibles dans une famille honnête, avec leur ventre. Et celle-ci, que je trouve à la besogne et d'un cœur, décidément, c'est la fin du monde. La débauche n'a plus de bornes. » Buteau et Lise, ahuris, partagèrent son indignation par déférence. Sûr, ce n'est pas propre. Oh non, pas propre. Mais de nouveau, il s'arrêtait devant eux. Et vous imaginez-vous, Élodie montant à cette échelle, découvrant ça? Elle, si innocente, qui ne sait rien de rien, dont nous surveillons jusqu'aux pensées. Ça fait trembler, parole d'honneur. Quel coup, si Madame Charles était là! Justement, à cette minute, comme il jetait un regard par la fenêtre, il aperçut l'enfant, cédant à une curiosité, le pied sur le premier échelon. Il se précipita, il lui cria d'une voix étranglée d'angoisse, comme s'il l'avait vue au bord d'un gouffre. « Élodie ! Élodie ! Descends ! Éloigne-toi, pour l'amour de Dieu !» Ses jambes se cassaient, il se laissa tomber dans un fauteuil, en continuant à se lamenter sur le dévergondage des bonnes. Est-ce qu'il n'en avait pas surpris une au fond du poulailler, montrant à la petite comment les poules avaient le derrière fait? C'était déjà assez de tracas dehors d'avoir à lui épargner les grossièretés des paysans et le cynisme des animaux. Il perdait courage s'il devait trouver dans sa maison un foyer constant d'immoralité. « La voici qui rentre, » dit-il brusquement. « Vous allez voir. » Il sonna et il reçut Honorine assis, sévèrement, ayant par un effort recouvré son calme digne. « Mademoiselle, faites votre mal et partez tout de suite, je vous paierai vos 8 jours. » La bonne, chétive, maigrichonne, l'air pauvre et honteux, voulut s'expliquer, bredouiller des excuses. « Inutile, tout ce que je puis faire, c'est de ne pas vous livrer aux autorités pour attentat aux mœurs. » Alors elle se révolta. « Dites, c'est donc qu'on a oublié de payer la passe ?» Il se leva tout droit, très grand, et la chassa d'un geste souverain, le doigt tendu vers la porte. Puis, quand elle fut partie, il se soulagea brutalement. « A-t-on idée de cette putain qui déshonorait ma maison ?»« Sûre, c'en est une. Ah, une vraie !» répétèrent complaisamment Lise et Buteau. Et ce dernier reprit. « N'est-ce pas? C'est convenu, mon oncle. Vous viendrez avec la petite. » Monsieur Charles demeurait frémissant. Il était allé se regarder dans la glace, d'un mouvement inquiet, et il revenait, satisfait de lui. « Où donc ? Ah oui, à votre mariage. C'est très bien ça, mes enfants, de vous marier. Comptez sur moi, j'irai. Mais je ne vous promets pas d'amener Élodie, parce que, vous savez, à une noce, on en lâche. Hein ? La garce, voulais-je flanquer dehors ? C'est qu'il ne faut pas que les femmes m'embêtent. Au revoir, comptez sur moi. » Les deux hommes, chez qui Buteau et Lise se rendirent ensuite, acceptèrent, après les refus et les insistances d'usage. Il ne restait de la famille que Jésus-Christ à inviter. Mais vraiment, il devenait insupportable, brouillé avec tous, inventant les plus sales affaires pour déconsidérer les siens. Et l'on se décida à l'écarter, en tremblant qu'il ne se vengeât par quelque abomination. Rogne était dans l'attente. Ce fut un événement que ce mariage différait si longtemps. Hourdequin, le maire, se dérangea. Mais, prié d'assister au repas du soir, il dut s'excuser, forcé justement ce jour-là d'aller coucher à Chartres pour un procès. Et il promit que Madame Jacqueline viendrait, puisqu'on lui faisait aussi la politesse de l'inviter. On avait songé un instant à convier l'abbé Godard, afin d'avoir du monde bien. Seulement, dès les premiers mots, le curé s'emporta, parce qu'on fixait la cérémonie au jour de la Saint-Jean. Il avait une grand-messe, une fondation à Bazoches-le-Doyen. Comment voulait-on qu'il fût à Rogne le matin ? Alors les femmes, Lise, Rose, Fanny, s'entêtèrent. Elles ne parlèrent pas d'invitation. Il finit par céder, et il vint à midi, si furieux qu'il leur lâcha leur messe dans un coup de colère, ce dont elles restèrent blessées profondément. D'ailleurs, après des discussions, on avait résolu que la noce se ferait très simple, en famille, à cause de la situation de la mariée, avec son petit de 3 ans bientôt. Pourtant, on était allé chez le pâtissier de Cloyes commander une tourte et le dessert, en se résignant à mettre dans ce dessert toute la dépense, pour montrer qu'on savait faire sauter les écus lorsque l'occasion s'en présentait. Il y aurait, comme à la noce de l'aîné des Coquart, les fermiers de Saint-Just, un gâteau monté, 2 crèmes, 4 assiettes de sucreries et des petits fours. À la maison, on aurait une soupe grasse, des andouilles, 4 poulets sautés, 4 lapins en gibelotte, du bœuf et du veau rôti. Et cela pour 15aine de personnes. On ne savait pas encore le nombre exact. S'il en restait le soir, on le finirait le lendemain. Le ciel, un peu couvert le matin, s'était éclairci, et le jour s'achevait dans une tiédeur et une limpidité heureuse. On avait dressé le couvert au milieu de la vaste cuisine, en face de l'âtre et du fourneau, où rôtissaient les viandes, où bouillaient les sauces. Les feux chauffaient tellement la pièce qu'on laissait larges ouvertes les 2 fenêtres et la porte, par lesquelles entrait la bonne odeur pénétrante des foins fraîchement coupés. Depuis la veille, les filles mouches se faisaient aider par Rose et Fanny. À 3 heures, il y eut une émotion lorsque parut la voiture du pâtissier, qui mettait aux portes les femmes du village. Tout de suite, on disposa le dessert sur la table pour le voir. Et justement, la grande arrivait, en avance. Elle s'assit, serra sa canne entre ses genoux, ne quitta plus le manger de ses yeux durs. S'il était permis de tant dépenser. Elle n'avait rien pris le matin pour en avaler davantage le soir. Les hommes, Buteau et Jean qui lui avaient servi de témoin, le vieux Fouan, Delhomme accompagné de son fils Nénès, tous en redingote et en pantalon noir, avec de hauts chapeaux de soie qu'ils ne quittaient pas, jouaient au bouchon dans la cour. Monsieur Charles arriva. Seul, ayant reconduit la veille Élodie à son pensionnat de Châteaudun. Et, sans y prendre part, il s'intéressa au jeu. Il émit des réflexions judicieuses. Mais, à 6 heures, lorsque tout se trouva prêt, il fallut attendre Jacqueline. Les femmes baissaient leurs jupes qu'elles avaient retroussées avec des épingles pour ne pas les salir devant le fourneau. Lise était en bleu, Françoise en rose, des soies d'un ton dur, démodé, que Lambourdieu leur avait vendu le double de leur valeur, en les leur donnant comme la dernière nouveauté de Paris. La mère Fouan avait sorti la robe de popeline violette qu'elle promenait depuis 40 ans dans les noces du pays. Et Fanny, vêtue de vert, portait tous ses bijoux, sa chaîne et sa montre, une broche, des bagues, des boucles d'oreilles. À chaque minute, une des femmes sortait sur la route, courait jusqu'au coin de l'église pour voir si la dame de la ferme n'arrivait pas. Les viandes brûlaient, la soupe grasse qu'on avait eu le tort de servir refroidissait dans les assiettes. Enfin, il y eut un cri. « La voilà, la voilà !» Et le cabriolet parut. Jacqueline en sauta lestement. Elle était charmante, ayant eu le goût, en jolie fille, de s'habiller de simples cretonnes, blanches à pois rouges. Et pas un bijou, la chair nue, rien que des brillants aux oreilles. Un cadeau de Hourdequin, qui avait révolutionné les fermes d'alentour. Mais on fut surpris qu'elle ne renvoya pas le valet qui l'avait amené, après qu'on l'eût aidé à remiser la voiture. C'était un nommé Tron, une sorte de géant, la peau blanche, le poil roux, à l'air enfantin. Il venait du Perche, il était à la borderie depuis une quinzaine, comme garçon de cour. « Tron reste, vous savez, » dit-elle gaiement, « il me ramènera. » En Beauce, on n'aime guère les percherons qu'on accuse de fausseté et de sournoiserie. On se regardait. C'était donc à nouveau à la cognette, cette grande bête-là. Buteau, très gentil, très farceur, depuis le matin, répondit « Pour sûr qu'il reste, ça suffit qu'il soit avec vous. » Lise, ayant dit de commencer, on se mit à table, dans une bousculade avec des éclats de voix. Il manquait 3 chaises. On courut chercher 2 tabourets dépaillés sur lesquels on plaça une planche. Déjà, les cuillères tapaient ferme au fond des assiettes. La soupe était froide, couverte d'yeux de graisse qui se figeaient. Ça ne faisait rien. Le vieux Fouan exprima cette idée qu'elle allait se réchauffer dans leur ventre, ce qui souleva une tempête de rire. Alors ce fut un massacre, un engloutissement. Les poulets, les lapins, les viandes défilèrent, disparurent au milieu d'un terrible bruit de mâchoire. Très sobres chez eux, ils se crevaient d'indigestion chez les autres. La grande ne parlait pas pour manger davantage, allant son train d'un broiement continu. Et c'était effrayant ce qu'engouffrait ce corps sec et plat d'octogénaire, sans même enfler. Il était convenu que, par convenance, Françoise et Fanny s'occuperaient du service pour que la mariée ne se levât pas. Mais celle-ci ne pouvait se tenir, quitter sa chaise à chaque minute, se retrousser les manches, très attentionnée à vider une sauce ou à débrocher un rôti. Bientôt, du reste, la table entière s'en mêla. Toujours quelqu'un était debout, se coupant du pain, tâchant de rattraper un plat. Buteau, qui s'était chargé du vin, ne suffisait plus. Il avait bien eu, pour ne pas perdre son temps à boucher et à déboucher des bouteilles, le soin de mettre simplement un tonneau en perce. Seulement, on ne le laissait pas manger. Il devint nécessaire que Jean le relayât, en emplissant à son tour les litres. Delhomme, carrément assis, déclarait de son air sage qu'il fallait du liquide si l'on ne voulait pas étouffer. Lorsque l'on apporta la tourte, large comme une roue de charrue, il y eut un recueillement. Les godivots impressionnaient, et M. Charles poussa la politesse jusqu'à jurer sur son honneur qu'il n'en avait jamais vu de plus belle à Chartres. Du coup, le père Fouan, très en train, en lâcha une autre. « Dites donc, si on se collait ça sur la fesse, ça y guérirait les crevasses. » La table se tordit, Jacqueline surtout, qui en eut les larmes aux yeux. Elle bégayait, elle ajoutait des choses qui se perdaient dans les rires. Les mariés étaient placés face à face. Buteau entre sa mère et la grande. Lise entre le père Fouan et Monsieur Charles. Et les autres convives se trouvaient à leur plaisir. Jacqueline à côté de Tron, qui la couvait de ses yeux doux et stupides. Jean près de Françoise, séparé d'elle seulement par le petit Jules, sur lequel tous deux avaient promis de veiller. Mais dès la tourte, une forte indigestion se déclara. Il fallut que la mariée allât coucher l'enfant. Ce fut ainsi que Jean et Françoise achevèrent de dîner côte à côte. Elle était très remuante, toute rouge du grand feu de l'âtre, brisée de fatigue et surexcitée pourtant. Lui, empressé, voulait se lever pour elle, mais elle s'échappait. Elle tenait en outre tête à Buteau, qui, très taquin lorsqu'il était gentil, l'attaquait depuis le commencement du repas. Il la pinçait au passage, elle lui allongeait une tape, furieuse. Puis elle se relevait sous un prétexte, comme attirée, pour être pincée encore et le battre. Elle se plaignait d'avoir les hanches bleues. « Mais reste donc là !» répétait Jean. « Ah non » criait-elle, « faut pas qu'il croie être mon homme aussi, parce qu'il est celui de Lise !» À la nuit noire, on avait allumé 6 chandelles. Depuis 3 heures, on mangeait. Lorsqu'enfin, vers 10 heures, on tomba sur le dessert. Dès lors, on but du café. Non pas une tasse, 2 tasses, mais du café à plein bol, tout le temps. Les plaisanteries s'accentuaient. Le café, ça donne du nerf. C'était excellent pour les hommes qui dormaient trop. Et chaque fois qu'un des convives mariés en avalait une gorgée, on se tenait les côtes. « Bien sûr que tu as raison d'en boire, » dit Fanny à Delhomme, très rieuse, jetée hors de sa réserve habituelle. Il rougit, allégua posément pour excuse son trop de travail, pendant que leur fils Nénesse, la bouche grande ouverte, riait, au milieu de l'explosion de cris et de claques sur les cuisses, produites par cette confidence conjugale. D'ailleurs, le gamin avait tant mangé qu'il en éclatait dans sa peau. Il disparut. On ne le retrouva qu'au départ, couché avec les 2 vaches. La grande fut encore celle qui tint le plus longtemps. À minuit, elle s'acharnait sur les petits fours, avec le désespoir muet de ne pouvoir les finir. On avait torché les jattes de crème, balayé les miettes du gâteau monté. Et dans l'abandon de l'ivresse croissante, les agrafes des corsages défaites, les boucles des pantalons lâchées, on changeait de place, on causait par petits groupes autour de la table, grasse de sauce, maculée de vin. Des essais de chansons n'avaient pas abouti. Seule la vieille Rose, la face noyée, continuait à fredonner une polissonnerie de l'autre siècle, un refrain de sa jeunesse, dont sa tête branlante marquait la mesure. On était aussi trop peu pour danser. Les hommes préféraient vider les litres d'eau-de-vie en fumant leurs pipes qu'ils tapaient sur la nappe pour en faire tomber les culots. Dans un coin, Fanny et Delhomme supputaient à un sou près, devant Jean et Tron, quelle allait être la situation pécuniaire des mariés et quelles seraient leurs espérances. Cela dura interminablement. Chaque centimètre de terre était estimé. Ils connaissaient toutes les fortunes de rogne, jusqu'aux sommes représentées par le linge. À l'autre bout, Jacqueline s'était emparée de M. Charles, qu'elle contemplait avec un sourire invincible. Ses jolis yeux pervers allumaient de curiosité. Elle le questionnait. « Alors, c'est drôle, Chartres, il y a du plaisir à y prendre ?» Et lui répondait par un éloge du tour de ville, la ligne de promenade plantée de vieux arbres qui font à Chartres une ceinture d'ombrage. En bas, surtout, le long de l'Eure, les boulevards étaient très frais en été. Puis il y avait la cathédrale. Il s'étendait sur la cathédrale en homme bien renseigné et respectueux de la religion. Oui, un des plus beaux monuments, devenu trop vaste pour cette époque de mauvais chrétiens, presque toujours vide au milieu de sa place déserte, que seules des ombres de dévotes traversaient en semaine. Et cette tristesse de grande ruine, il l'avait sentie, un dimanche qu'il y était entré, en passant au moment des vêpres. On y grelottait, on n'y voyait pas clair à cause des vitraux. Si bien qu'il avait dû s'habituer au noir avant de distinguer 2 pensionnats de petites filles, perdues là comme une poignée de fourmis. chantant d'une voix aiguë de fifre sous les voûtes. Ah, vraiment, ça serrait le cœur qu'on abandonnât ainsi les églises pour les cabarets. Jacqueline, étonnée, continuait à le regarder fixement avec son sourire. Elle finit par murmurer. « Mais dites donc, les femmes à Chartres !» Il comprit, devint très grave, s'épancha pourtant dans l'expansion de la soûlerie générale. Elle, très rose, frissonnante de petits rires, se poussait contre lui, comme pour entrer dans ce mystère d'un galop d'homme, tous les soirs. Mais ce n'était pas ce qu'elle croyait. Il lui en comptait le dur travail, car il avait le vin mélancolique et paternel. Puis il s'anima lorsqu'elle lui eut dit qu'elle s'était amusée à passer pour voir, devant la maison de Châteaudun, au coin de la rue d'Avignon et de la rue Loiseau, une petite maison délabrée, aux persiennes closes et à demi pourries. Derrière, dans un jardin mal tenu, une grosse boule de verre étamée reflétait la façade, tandis que devant la lucarne du comble, changée en pigeonnier, des pigeons volaient, roucoulant au soleil. Ce jour-là, des enfants jouaient sur la marche de la porte et l'on entendait les commandements par-dessus le mur de la caserne de cavalerie voisine. Lui l'interrompait, s'emportait. Oui, oui, il connaissait l'endroit. Deux femmes dégoûtantes et éreintées, pas même des glaces en bas. C'était ces bouges qui déshonoraient le métier. « Mais que voulez-vous faire dans une sous-préfecture ? » dit-il enfin, calmé, cédant à une philosophie tolérante d'homme supérieur. Il était 1 heure du matin. On parla d'aller se coucher. Lorsqu'on avait eu un enfant ensemble, inutile, n'est-ce pas, d'y mettre des façons pour se fourrer sous la couverture. C'était comme les farces, le poil à gratter, le lit déboulonné, les joujoux qui aboient quand on les presse. Tout ça, avec eux, n'aurait guère été que de la moutarde après dîner. Le mieux était de boire encore un coup et de se dire bonsoir. À ce moment, Lise et Fanny poussèrent un cri. Par la fenêtre ouverte, de l'ordure venait d'être jetée à pleine main, une volée de merde ramassée au pied de la haie. Et les robes de ces dames se trouvaient perdues, éclaboussées du haut en bas. Quel était le cochon qui avait fait ça? On courut, on regarda sur la place, sur la route, derrière le mur. Personne. D'ailleurs, tous furent d'accord. C'était Jésus-Christ qui se vengeait de n'avoir pas été invité. Les Fouan et les Delhomme partirent. Monsieur Charles aussi. La grande faisait le tour de la table, cherchant s'il ne restait rien. Et elle se décida, après avoir dit à Jean que les buteaux crèveraient sur la paille. Dans le chemin, pendant que les autres, très ivres, culbutaient parmi les cailloux, on entendit son pas ferme et dur s'éloigner, avec les petits coups réguliers de sa canne. Tron ayant attelé le cabriolet pour madame Jacqueline, celle-ci, sur le marchepied, se retourna. « Est-ce que vous rentrez avec nous, Jean ? Non, n'est-ce pas ?» Le garçon qui s'apprêtait à monter se ravisa, heureux de la laisser aux camarades. Il la regarda se serrer contre le grand corps de son nouveau galant. Il ne put s'empêcher de rire quand la voiture eut disparu. Lui rentrerait à pied. Et il vint s'asseoir un instant sur le banc de pierre, dans la cour, près de Françoise, qui s'était mise là, étourdie de chaleur et de lassitude, en attendant que le monde fût parti. Les buteaux étaient déjà dans leur chambre. Elle avait promis de fermer tout avant de se coucher elle-même. « Ah, qu'il fait bon, là » soupira-t-elle après 5 grandes minutes de silence. Et le silence recommença, d'une paix souveraine. La nuit était criblée d'étoiles, fraîches, délicieuses. L'odeur des foins s'exhalait, montait si fort des prairies de l'Aigre qu'elle embaumait l'air comme un parfum de fleurs sauvages. « Oui, il fait bon !» répéta enfin Jean. « Ça remet le cœur !» Elle ne répondit pas, et il s'aperçut qu'elle dormait. Elle glissait, elle s'appuyait contre son épaule. Alors il demeura 1 heure encore, songeant à des choses confuses. De mauvaises pensées l'envahirent, puis se dissipèrent. Elle était trop jeune. Il lui semblait qu'en attendant, elle seule vieillirait et se rapprocherait de lui. « Dis donc, Françoise, faut se coucher, on prendrait du mal. » Elle se réveilla en sursaut. « Tiens, c'est vrai, on sera mieux dans son lit. » Au revoir, Jean. Au revoir, Françoise.